Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé » proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidées par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure, présidente de plusieurs réseaux féminins, femmes des territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, pour faire du business avec du sens, et Bouge ton groupe, pour les femmes cadres et managers. Aujourd'hui, je reçois deux femmes à l'énergie et au charisme contagieux qui, après une longue période d'études, ont chacune choisi d'écouter qui elles sont vraiment, en transformant leur audace, leur expérience, leur différence en entreprise à forte croissance. Elles ont inventé leur propre chemin à force de détermination et de discipline pour donner le meilleur d'elles-mêmes à notre société. Et devenir la meilleure version de soi-même, c'est d'ailleurs le mantra de Pauline Léniaud. Bonjour Pauline.
Bonjour Marie.
Vous êtes la fondatrice de la marque de joaillerie Gemio et du podcast Le Gratin qui représente aujourd'hui tout un univers. En quelques chiffres, Gemio, c'est une cinquantaine de collaborateurs, 1 million d'euros de résultats nets, 20% du chiffre d'affaires à l'international. Le Gratin, c'est 300 000 écoutes et déjà 2000 clients pour les formations que vous proposez, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour Marine Cotier-Sluis.
Bonjour.
Alors vous êtes CEO et cofondatrice de Lucine, une start-up d'une quarantaine de salariés spécialisée dans les thérapies digitales, les DTX. Alors retenez bien cet acronyme car c'est un secteur qui a le vent en poupe, les DTX. En clair, Lucine, c'est une application pour soulager les douleurs chroniques. Et comment ça marche? Eh bien, vous utilisez un questionnaire, la reconnaissance faciale, vocale et posturale pour vous proposer en quelques minutes des sons, des images par exemple, qui vont agir sur les hormones du cerveau et s'éprouver, diminuer la douleur. Vous venez d'ailleurs de réaliser la plus grosse levée de fonds en début de projet dans le secteur des DTX au niveau mondial, 5,5 millions d'euros. Bravo, et on en reparlera tout à l'heure. Ensemble, Pauline Léniaud, Marine Cotier-Sluis, j'espère qu'aujourd'hui on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de sortir des chemins tracés pour vous, pour révéler votre puissance interne et la mettre au service du plus grand nombre. Pauline Léniaud, on commence avec vous.
Et bien avec plaisir.
D'abord, un grand merci de nous accueillir puisque ce podcast est enregistré chez vous.
Et oui.
Et vous avez accepté de partager avec nous, pour commencer, deux moments clés. Deux jours où votre vie a basculé. Le premier jour où vous sortez de l'ENS, l'École normale supérieure, une des institutions les plus prestigieuses de France. Vous en sortez avec un diplôme d'agrégé d'anglais. Et là, la recherche, ça ne vous dit pas trop.
Non.
Vous vous destinez à passer le concours de l'ENA.
Exactement, parce que j'avais déjà fait beaucoup d'études, mais ça ne me suffisait pas. Non, blague à part, je m'étais lancée dans la voie littéraire tout simplement parce que j'aimais les lettres. Et je pense par biais familial, notamment parce que mes parents n'ont pas fait d'études. Je pense que j'avais envie de faire plaisir à mes parents. Et surtout, je voyais la fierté chez mon papa notamment, qui lui-même bah voilà, a son bac et puis c'est tout. Et donc, bah, c'était ma fille va faire normal sup. Et j'ai travaillé énormément pour y arriver. Et j'avoue, quand je suis rentrée, ce qui est bizarre, c'est que le paradoxe, c'est que j'étais pas particulièrement heureuse en réalité, puisque je ne savais pas du tout pourquoi j'y étais, si ce n'est pour faire plaisir en réalité aux personnes que j'aimais. Et donc, je passe le concours de l'agrégation. Sincèrement, c'est quand même pas si facile. C'est beaucoup de travail, donc je m'engage là-dedans et je me rends compte mais que je veux pas enseigner, que c'est pas fait pour moi. C'est un métier qui est très difficile. Il faut avoir une vraie vocation. Donc, je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je suis dans le secteur public. Et donc là, bah, je redemande à mon père qui me dit mais passe l'ENA. Évidemment, évidemment.
Parce que c'est le Graal, c'est ça?
Parce que c'est le Graal et que c'est l'étape d'après. C'est ce que je fais. Et vous savez, j'en blague un petit peu maintenant, mais à l'époque, j'avais vraiment un recul, mais nul, nullissime. Et donc, donc je me dis, bah oui, il a raison, je vais passer l'ENA, ça va donner un sens à ma vie. Je travaille encore comme un chien et j'arrive miraculeusement à passer les écrits. Et donc là, je me retrouve au grand oral. Le grand oral, donc c'est un espèce d'entretien de personnalité géant, mais beaucoup moins sympathique que là en ce moment, puisque vous avez 9 personnes devant vous qui vous criblent de questions. Et globalement, ce qui se passe, c'est que ben, il me pose que des questions sur les derniers films que j'ai vus, mon livre préféré. Je me dis, waouh, super, il m'aime bien, ça s'est bien passé. Bah pourtant, quand je reçois la note, j'ai un 2. 2 sur 20.
Donc ça, la cata.
C'est assez radical, parce que c'est en plus l'épreuve qui a le plus grand coefficient, et donc évidemment, je ne suis pas admise. Sur le coup, c'est extrêmement dur. Je me dis, mais 2 sur 20, c'est vraiment rédhibitoire. Ça veut dire que c'est une note, ils ne veulent pas de moi. Et donc, ça a été une période intéressante parce que j'ai en gros fait une espèce de dépression, parce qu'en plus, c'est public, c'est annoncé voilà, sur leur site internet, donc personne ne m'appelle pour me demander si je l'ai eu. Évidemment, tout le monde est au courant que je l'ai foiré.
Vos parents ?
Mes parents sont désespérés. Mon père me dit, bon, bah, c'est pas grave, tu le repasses.
Et donc, il ne lâche pas.
Voilà. Et donc, tout ça pour dire que cette période de grande déprime où je me dis, ça fait quand même 9 ans que je travaille, puisque ces études avaient été fort longues, pour arriver à ce 2 sur 20, m'ont fait réaliser que je travaillais depuis toutes ces années pour faire plaisir à des personnes qui, en fait, au final, n'avaient même pas vraiment envie que je le fasse. Ils pensaient que c'était une bonne voie. Ils m'avaient poussé gentiment, mais c'était pas non plus, si vous voulez, forcené, quoi.
C'était pas un rêve pour vous. C'était pas vous, vraiment.
Mais moi, c'était absolument pas mon rêve. Et donc, c'est le jour où j'ai réalisé que je vivais le rêve de mes parents, ou en tout cas que je pensais, c'est même ça le pire, vivre le rêve de mes parents, que je me suis dit, mais en fait, il faut que je commence à me poser la question. Qu'est-ce que je veux, moi ? Et cette question, on est très peu à se la poser, et je ne me l'étais pas posée avant l'âge de, je ne me rappelle pas, mais peut-être 25-26 ans. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est l'aventure, c'est la créativité, c'est la liberté, c'est faire des choses de mes mains, c'est être dans l'action. Autant vous dire que c'est assez loin de les études que j'avais pu faire. Et donc, j'ai complètement changé de voie, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais être entrepreneur, que je voulais complètement changer de vie et vivre une aventure, ce que j'estime aujourd'hui être l'aventure du 21e siècle.
Donc, du coup, vous entrez à HEC, école de commerce. En 2011, vous créez Gemio avec votre mari, une marque de joaillerie donc en ligne qui propose des bijoux à personnaliser. Gemio qui innove, qui ne cesse de grandir avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Vous aussi qui nous écoutez, vous avez peut-être en tête le chat rose, le fameux chat rose qui représente Gemio. Arrive le deuxième jour où votre vie bascule, Pauline Léniaud. Vous avez beaucoup donné à Gemio et vous avez besoin de faire quelque chose qui vous ressemble encore davantage, c'est-à-dire vraiment vous-même.
C'est vrai, je m'étais lancée dans cette voie de l'entrepreneuriat avec énormément de passion et je pense quand on fait ça, on compte plus son temps. Moi, j'ai travaillé comme nous tous, mais énormément. On travaillait sur cette table d'ailleurs chez Gemio jusqu'à 7 personnes pour la première année. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 5, 6, je crois que c'était 6 ans, j'ai commencé à me dire, mais finalement, est-ce que c'est le bon chemin ? L'entreprise se portait bien. Mais je me dis, est-ce que je suis à la bonne place ? Parce que quand ça fait 5-6 ans que vous travaillez autant, il y a un moment où en fait, il faut se poser la question. Est-ce que je rempile ? Ou est-ce que je change ? Et est-ce que je fais autre chose ? Surtout que j'étais quelqu'un qui aimait l'aventure, comme je disais. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de m'écouter, j'ai eu besoin d'un peu de temps pour moi et j'ai eu besoin donc de créer autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé Le Gratin, donc un podcast. Je n'avais pas du tout prévu d'avoir un podcast dans la durée.
À un moment, vous ne vous sentez pas non plus au top de votre
complètement
de votre morale, de votre forme.
Mais oui, parce qu'en
recherche.
Fait, si vous voulez, quand ça fait 6 ans que vous avez créé votre boîte, que vous êtes à la tête de votre boîte et qu'en plus vous pouvez pas dire que vous vous posez des questions parce que voilà, publiquement, ça ne se dit pas. J'ai eu besoin de me ressourcer, j'ai eu besoin d'avoir cette prise de recul. Et d'abord, j'ai écouté des podcasts. Et quand je me suis rendu compte à quel point ça m'avait aidé à réfléchir sur moi-même, à comprendre ce que je voulais, je me suis dit, mais au final, pourquoi est-ce que je ne créerais pas le mien ? Et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, le monde du podcast en France était très naissant.
En 2017-2018, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça. Donc je suis arrivée, on va dire, au bon moment et avec un réseau qui était déjà assez conséquent dans le milieu business. Donc et puis ça m'a beaucoup plu. Et je dirais que ce moment-là a été aussi salutaire parce que je pense que j'ai énormément appris sur moi, j'ai énormément appris sur l'entreprise. Je pense que j'ai beaucoup mûri à ce moment-là, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça a été une espèce de maturation assez accélérée.
Et c'était idée-action, c'est-à-dire envie de faire un podcast, et quelques jours après, le micro était sur la table, c'est
ça ? J'ai pas trop traîné, je crois que le jour où j'ai eu l'idée, c'était peut-être, je sais pas, un lundi, et disons que 10 jours plus tard, j'avais fait mon premier épisode, quoi. Je me suis dit, en tout cas, et ça c'est mon côté peut-être entrepreneurial, mais c'est un petit conseil que je peux donner, c'est à un moment donné, on reste très souvent coincé dans sa tête, et en fait, si on ne teste pas, qu'on ne voit pas si on aime ça, si on ne voit pas si on est capable de le faire, si on ne voit pas, s'il y a un accueil aussi du public, ça sert à rien, en fait, de rester coincé dans sa tête. fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le tester le plus vite possible. Ça sera imparfait, évidemment. Mais au moins, comme ça, j'en aurai le cœur net. Et il se trouve que ça a marché tout de suite et que moi, surtout, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'était un peu le but de la manœuvre.
Et le gratin qui est aujourd'hui, en plus du podcast, ce sont aussi des formations pratico-pratiques, hein, sur le business plan, la communication, encore l'art de la vente, tout un univers que vous avez créé. Marine Cotillès-Loos, alors vous êtes ancienne sportive de haut niveau et votre parcours académique est également impressionnant. Vous me dites si je me trompe, vous avez obtenu des diplômes de droit, d'anthropologie, de psychologie, d'histoire, de neurosciences. Vous avez réalisé une thèse de doctorat en neurophysiologie. Tout ça en parallèle en faisant des petits boulots pour payer vos études. Et ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que vous souffrez de plusieurs maladies, de douleurs chroniques qui sont fortes. Et le jour où tout a basculé pour vous, c'est un jour où bah, vous n'en pouvez plus, quoi.
Tout à fait. Alors, je précise juste un élément qui est important pour moi. Je ne l'ai pas validé, mon doctorat, parce que j'ai voulu justement partir sur Lucine. On m'a demandé de choisir 6 mois avant la validation de ma thèse et je me suis barrée de la fac. Je ne l'ai pas validé.
Moi, j'ai abandonné la grecque, donc on est dans le même cas. Ça ne sert à rien.
Oui, effectivement, un jour très particulier pour moi. Ça faisait des années, en fait, que j'avais mal. Des années que j'avais le corps... en souffrance, que je rencontrais professionnels de santé sur professionnels de santé, spécialistes sur spécialistes, qui, à chaque fois, ne me trouvaient rien. Et avec une position, je dirais, de chacun qui, à un moment donné, quand on trouve rien, c'est qu'il y a forcément quelque chose, ça s'appelle une maladie de l'esprit.
C'est vous le problème.
Ça s'appelle la santé mentale. Et donc, à cette époque-là, étant quand même en neurophysio, je commence à faire mes propres recherches par rapport à mes symptômes. Et je tombe sur plusieurs articles de recherche sur une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie rare qui touche les tissus, qui touche le collagène dans le corps, une maladie génétique. Et quand je lis la symptomologie, je me dis quand même, ça me ressemble pas si mal, quoi. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de trouver un centre de référence dans ma région. Je prends rendez-vous avec l'un des grands experts de ma région sur cette pathologie. J'y vais avec une énorme confiance après 6 mois d'attente pour avoir ce rendez-vous avec mon conjoint, en étant assez persuadée que j'allais enfin voir le bout du tunnel. Et je tombe dans un petit bureau sans fenêtre, dans lequel ce monsieur ne m'ausculte pas, me pose quelques questions et finit par me dire « Écoutez, c'est très simple, vous n'avez pas le syndrome d'Ehlers dans l'os. La raison, elle est très simple, c'est que vous avez une vingtaine d'années et vous êtes encore vivante. Donc, si vous aviez le syndrome d'Ehlers dans l'os, en fait, vous seriez morte. Vous avez fait des études supérieures. La plupart des gens qui ont cette maladie ne peuvent pas faire d'études supérieures. Donc, en fait, vous n'avez rien. Moi, je vous le dis, vous avez un problème de santé mentale au vu du nombre de personnes que vous avez vues. » Je ressors de là. Donc, il faut imaginer que ça fait 10 ans hein, que je suis en recherche comme ça de réponse. Je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Je suis sur le parking de l'hôpital. Je m'assois sur le trottoir, je regarde mon conjoint et je lui dis « Écoute, on va prendre la voiture et tu vas m'amener au centre de repos et au centre de santé mentale le plus proche. Tu m'y déposes. »
Vous étiez prête à être internée psychiatriquement, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. Parce que pour moi, fallait se rendre à l'évidence. J'avais bien quelque chose dans le corps qui n'allait pas. Aucun professionnel de santé était capable de mettre un nom dessus. Donc, à un moment donné, mon esprit a lâché. Mon esprit, ma combativité a lâché. Et j'ai dit à mon conjoint en larmes, tu m'amènes là-bas. Et là, j'ai eu deux énormes chances ce jour-là. La première chance que j'ai eue, c'est mon propre conjoint qui m'a dit, tu rêves. C'est pas dans ta tête. Moi, je te connais. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. C'est pas dans ta tête. Ils n'ont pas compris. Et on va trouver ce que c'est. Donc, tu lâches pas. Et la deuxième chose dont il a une idée merveilleuse à ce moment-là, c'est que j'avais pris quand même un deuxième rendez-vous avec un autre spécialiste sur Paris du syndrome d'Ehlers dans l'os. Sauf qu'il y avait 2 ans d'attente pour avoir ce spécialiste. Et il me dit « Écoute, bouge pas ». Il prend son téléphone, il appelle le secrétariat de ce spécialiste sur Paris. Je sais pas ce qu'il se dit. Il me passe juste le téléphone et il me dit « S'il te plaît, prends le téléphone, c'est le spécialiste sur Paris qui veut te parler ». Je prends le téléphone, le spécialiste du coup de Paris me parle, je suis en pleurs, hein, c'est complètement irraisonné, je dis les trucs, enfin, vous imaginez la situation, je suis vraiment dans tous mes états émotionnels. Et ce spécialiste, il reste 2 heures au téléphone avec moi. 2 heures où en fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait son boulot de clinicien, c'est-à-dire il pose un diagnostic à distance. Et il me dit 2 choses au bout de ces 2 heures-là. Déjà, on ne va pas se voir dans 1 an et demi, on va se voir le mois prochain, première chose. Deuxième chose, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous dire une chose qui est importante, vous allez n'écouter que moi, vous n'êtes pas folle, Vous avez le syndrome d'Ehlers dans l'os. La personne que vous avez rencontrée est juste pas formée sur la typologie du syndrome d'Ehlers dans l'os que vous avez. Et vous n'êtes pas folle et vous allez vous le répéter jusqu'à qu'on se voit. Ça, ça a été là vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impactée personnellement, où je me suis rendu compte que déjà, j'étais pas folle, donc il fallait peut-être que je m'écoute. Ça m'a donné beaucoup de force là-dessus. Ça m'a donné beaucoup de force de voir que les gens aussi qui nous entourent et qui nous aiment nous évitent de faire beaucoup de conneries quand on est au fond du trou. Et ce qui a enclenché Lucine, vraiment de manière définitive, c'est qu'à cette époque, donc un mois plus tard, c'était à l'hôpital Dieu à Paris. À l'époque, il était là-bas. Maintenant, il a bougé. Et c'est un monsieur qui a voué sa vie à cette maladie. Et c'est un monsieur qui, de 7h du matin à 23h le soir, reçoit des patients. Et je rentre dans une espèce de sous-sol à l'hôtel Dieu. Je sais pas, il est 8h du matin, on doit être quoi, 25-30 patients à attendre d'avoir un rendez-vous avec lui. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et je vois tous ces patients d'âges différents, des bébés, des enfants, des ados, des adultes, des hommes, des femmes, de classes sociales différentes en fait, qui ont cette maladie, qui souffrent, parce que c'est vraiment le point de jonction en termes de symptomologie de toutes et tous, c'est qu'on souffre dans notre corps en permanence. Et je vois que tous ces gens-là n'ont pas de solution. Et je vois en fait qu'au-delà de moi, ce que j'ai vécu, on est des millions à vivre la même chose. Et là, j'ai eu une espèce de
à souffrir, c'est ça, de douleur chronique.
À souffrir de douleur chronique tous les jours. Et là, il y a eu une espèce, cette image-là aujourd'hui, où je vois tous les gens souffrir, où je voyais des gamines de 16 ans en fauteuil roulant, incapables de se lever sur ses jambes tellement qu'elle avait mal. Et avec un professeur, moi j'étais spécialiste dans la douleur en neurophysiologie, je lui demande « qu'est-ce que vous faites des douleurs ?» Et il me dit « j'ai pas de solution ». Et là je me dis « ok, tu peux pas rester sans rien faire en fait, c'est pas possible. Avec tout ce que t'as fait dans la douleur et tout ce que t'as fait en termes de recherche, tu peux pas juste dire « c'est pas grave, on continue comme ça ». Et ça pour moi, ça a été un vrai point de bascule, parce qu'encore aujourd'hui quand ça va pas et que j'ai envie de lâcher Lucine, et ça arrive très souvent, cette image-là, elle me quitte pas en fait.
Et depuis, Lucine a fêté ses 4 ans aujourd'hui.
Le 6 mars, on fête nos 4 ans.
Pauline Léniaud, Marine Cotier-Sloux, vous avez plusieurs points communs, outre votre énergie. Vous avez créé à partir de zéro donc des entreprises à forte croissance qui sont innovantes dans leur domaine. Et on sait encore qu'on en est qu'au balbutiement, notamment pour les thérapies digitales. Donc des entreprises à forte croissance avec les défis qui vont avec, notamment managériaux. Autre point commun, vous avez noué directement des liens très forts avec vos clients, vos communautés. Comment faites-vous ? Et puis la question des levées de fonds avec des expériences très différentes pour chacune. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. D'abord, le début de l'aventure pour chacune. À quel moment vous vous êtes dit « ça y est, ça va décoller, c'est parti, ça marche mon truc, Pauline ?»
Est-ce qu'on se le dit à un moment donné ? Est-ce qu'on se le dit vraiment ? Je ne suis pas sûre. Parce que, je sais pas pour Marine, mais moi, je suis du style à me fixer des objectifs et puis quand je les atteins, je suis jamais contente, en fait. Je suis déjà en train de regarder
c'est
ceux courant. D'après. Et je pense que c'est assez courant. Du coup, quand même, pour répondre à la question, il y a eu des moments quand même assez forts, évidemment. Il y a eu le moment pour nous, vous en avez parlé, où on a sorti cette campagne du chat rose, où là, la notoriété de la marque, tout d'un coup, a vraiment décollé. Enfin, elle est passée, je me rappelle, à l'époque, pour donner des chiffres de 3% en Ile-de-France à plus de 50%. Donc, c'est colossal. Évidemment, ça a eu un impact. Surtout, je me rappelle quand on a ouvert notre première boutique et que j'ai vu physiquement la queue des clients dehors. Bah en fait, on se dit, c'est pas juste moi, mon petit compte Instagram et puis mes bijoux. C'est en fait des vies qui sont en train de changer aussi parce que finalement, ce sont des clients qui vont se marier avec nos bijoux, qui vont les accompagner tout au long de leur vie. Donc ça, c'est sûr que c'est des moments qui sont hyper importants. Et puis au-delà de ça, en tant qu'entrepreneur, moi, le moment, je pense, qui a été hyper important, c'est pas les levées de fonds, mais c'est les premiers collaborateurs, les premiers employés. Parce que là, on se dit, en fait, je ne suis pas toute seule, quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai réussi à générer quelque chose qui marche suffisamment pour que j'arrive à payer des gens.
Et ça, c'est quand même assez chouette. On va en parler juste après. Pour le gratin, quand est-ce que vous avez su que vos podcasts marchaient ? Comment ?
Pour le gratin, quand est-ce que j'ai su que ça marchait ? Une fois de plus, hein, c'est très subjectif comme question, mais je pense que quand j'ai commencé à avoir des personnes qui me contactaient, qui me disaient qu'ils écoutaient le gratin, notamment certains de mes invités, je pense à Christophe Michalak, Fred Mazzella, qui écoutent le gratin, ça c'est vrai que c'est chouette parce que je me dis, c'est pas pour citer des noms, mais je me dis en fait, c'est pas uniquement ma communauté, ce sont des personnes en dehors en fait de ce que je côtoie au quotidien, qui en ont entendu parler, qui ont trouvé ça suffisamment intéressant pour régulièrement le consommer. Et donc ça c'est vrai que c'est hyper sympa de se dire ça.
Et vous, Marine, quand est-ce que vous êtes dit, en fait, ça marche ? Surtout que vous, c'est plus des patientes, finalement, que des clients.
Tout à fait. Alors peut-être avant de répondre à la question, moi je te confirme, c'est comme ça que je t'ai connue. en écoutant ce que tu faisais sur Instagram et notamment avec les podcasts. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui partagent ce genre d'informations. Et je suis très impressionnée d'être avec toi aujourd'hui.
Oula,
parce que je me dis waouh.
Surtout pas.
Parce que là on a une boss de la com et tout. Donc ouais, je prends un cours là en direct. Donc voilà, ouais, je voulais le dire, mais en tout cas tes podcasts, c'est clair, sortent aussi de ta communauté, parce que du coup moi ça m'a aidé dans mon propre secteur. Donc voilà. C'est
écoute, le plus beau compliment que tu puisses me faire.
C'est super. Voilà, je voulais te le dire. Sur la question de quand est-ce que j'ai su que ça marche, il y a eu deux moments. Il y a eu un premier moment où quand même on parle d'une solution qui est censée soulager les gens via le téléphone portable. C'est un peu fumé hein, quand même hein, comme idée à l'origine. Et moi, il y a deux éléments pour moi qui étaient des éléments d'indicateurs pour me rassurer. Le premier élément, c'est est-ce que ça marche sur des patients ? Et le deuxième élément, est-ce que je suis crédible scientifiquement ? Parce que je reste une scientifique dans l'âme, donc c'était vraiment les deux moments importants. En 2017, je fais un espèce de prototype
pourri. Voilà. Vous m'avez dit pourri au téléphone.
Franchement, pourri, qui ne tient pas la route. Et malgré tout, je teste ça sur des patientes atteintes, alors principalement des femmes, parce que j'ai tendance à aller quand même sur cette communauté de patientes. Et beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, de fibromyalgie, des maladies dans lesquelles il n'y a pas de traitement, en fait, d'un point de vue médicamenteux, de manière classique. Et même les accompagnements, je dirais, plus légers, ne fonctionnent pas très bien. Et on fait un test à l'arrache de cette solution. À l'époque, ça dure 5 minutes de casque de réalité virtuelle qu'on met sur le bout du nez de la patiente. Et cette patiente-là me dit « Waouh, mes douleurs ont diminué ». Bon, je dis « Ok, c'est cool, je le note, tout va bien, quoi, c'est super ». Et le plus intéressant pour moi, c'est que 4 jours après, je reçois un mail dans ma boîte aux lettres dans laquelle elle me dit « En fait, je voulais juste vous dire que pendant 4 jours, j'ai pas eu de douleur. C'est la première fois en 20 ans que ça m'arrive ». Ce mail-là, j'étais tellement fière que je l'ai partagé à tous mes collaborateurs. Parce que je me suis dit, là, les gars, même si on n'a pas de preuves scientifiques, on s'en fout. Il y a déjà une patiente qui explique que pendant 4 jours, elle a une vie normale, en fait. Donc, on a gagné un truc, là. Il se passe quelque chose. Enfin, je me suis vraiment dit ça. Il se passe quelque chose. Et un an plus tard, quasiment... En plus, c'était fou, parce que c'était quasiment jour pour jour, un an plus tard. Je vais au Québec et je rencontre un monsieur qui s'appelle le professeur Serge Marchand. Qui est le gars qui a travaillé sur tout ce que j'ai fait d'un point de vue scientifique en fondamental pendant 35 ans. C'est, je sais pas, c'est quand on est dans la musique, c'est Prince, quoi. Vous voyez, c'est une espèce de voilà. Et déjà, il accepte de me rencontrer, ce que je trouve complètement fou. Je fais le rendez-vous avec lui. Et là, il me dit, comment ça se fait que j'y ai pas pensé? Et là, je me dis, OK, il est en train de se passer un truc. Et plus important que ça, ben ce monsieur-là, maintenant, c'est mon directeur scientifique. Il a quitté son poste au Québec et il bosse pour nous.
C'est trop beau. Et en plus, ça amène vers la transition, vers le management. Parce que comment on passe d'une entreprise où on est finalement tout seul au démarrage, l'une comme l'autre, et puis tout d'un coup, 40, 50 salariés, comment on apprend ça? Est-ce que vous avez un moment clé à partager avec nous, Pauline?
Bah, on apprend surtout en se trompant, je pense qu'on peut le dire, en se plantant, en faisant énormément d'erreurs. Parce que malheureusement, même si je suis la première à dire qu'on apprend beaucoup avec des podcasts, le terrain ne remplace rien. C'est-à-dire que c'est aussi à force d'expérience, hein, tout simplement, quand on s'est cassé les dents parce qu'on a embauché les mauvaises personnes, on a embauché des personnes qui nous ressemblent au lieu d'avoir des personnes qui sont faites pour le job, parce qu'on a mal défini la fiche de poste, parce que quand la personne ne fait pas le job correctement, bah, on n'ose pas lui dire. Enfin, toutes ces erreurs-là, moi, je les ai commises. Ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, donc j'ai eu bien le temps d'en faire. Je pense que je vais encore en faire beaucoup, mais je pense que c'est pas mal comme ça qu'on apprend. Les podcasts, malgré tout, font gagner un peu de temps parce que, ben voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire, justement, de les partager, ces erreurs, avec beaucoup de transparence. Donc, je dirais qu'il faut commencer tôt.
Erreur, Pauline, que vous regrettez peut-être ?
Une erreur que je regrette, sincèrement, je ne les regrette pas, parce que l'erreur qu'on regrette, c'est celle qu'on commet plusieurs fois. Moi, le fait que j'en fasse des erreurs, maintenant, je l'assume. Je sais qu'en tout cas, le recrutement, les RH, c'est tellement difficile comme science. Je ne sais pas si c'est une science, d'ailleurs. On dirait peut-être plus que c'est un art, parce qu'il y a quand même beaucoup de subjectivité. Je dirais que c'est tellement difficile qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas être né bon manager. Et je dis souvent, on ne naît pas bon manager, on le devient, mais on le devient à force de se casser les dents. Enfin, il faut être assez clair là-dessus. Il y a des personnes qui sont naturellement plus douées que d'autres, je pense. Mais malgré tout, c'est très difficile. Donc, honnêtement, des erreurs, je n'ai pas envie de ne pas donner d'exemple concret, mais ne pas avoir recruté les bonnes personnes, parce qu'en fait, j'avais mal défini la fiche de poste, et du coup, je me suis juste dit, je suis en galère, j'ai besoin de quelqu'un, et donc j'ai pris entre guillemets la personne qui avait l'air la plus motivée, mais en fait qui correspondait pas du tout au rôle, ou prendre des personnes qui étaient des amis, juste parce que c'était des amis et que j'allais bien m'entendre. Mais j'ai fait toutes les erreurs.
Moi aussi,
toutes,
j'avoue.
N'oublions pas que je me suis quand même associée avec mon mari. Hein. Donc en l'occurrence, ça marche bien. Mais voilà, donc des erreurs, on en a commis énormément. Mais voilà, je dirais que ce qu'il faut, c'est juste, en fait, assumer quand on fait des erreurs et surtout essayer de ne pas les reproduire. C'est ça le plus important et on finit quand même un petit peu par apprendre. Et aujourd'hui, sincèrement, je ne suis pas du tout parfaite en management, mais je pense être devenue un bon manager et plutôt savoir bien recruter. Je commettrai toujours des erreurs, mais bon, c'est comme ça.
Et vous, Marine ?
Alors moi, je suis un très mauvais manager.
Mais souvent, les bons entrepreneurs sont des mauvais managers. Hein.
Exactement. Je suis très bonne pour l'idée, mais je ne suis pas bonne pour accompagner. Pour plein de raisons. Je n'ai pas la patience, je mets beaucoup d'affect dans mes relations et pas au bon niveau. Et ça me bouffe. C'est humainement aussi, moi je rentre le soir, je déconnecte pas du coup. J'arrive à déconnecter de mon boulot d'entrepreneur ou de leader, mais j'arrive pas à déconnecter de mon boulot manager. C'est des choses qui peuvent me bouffer tout le week-end, quoi, d'un point de vue humain. Donc je suis vraiment pas faite pour ce job-là et du coup bah, j'ai fait un milliard de conneries. Forcément. Moi, alors c'est la manière dont je l'ai vécu. Je considère que j'ai souffert de ça, mais je considère que j'ai créé la souffrance chez l'autre aussi, en faisant des bêtises, en fait. En faisant des bêtises, parce que c'est vrai que l'entreprise que j'ai créée aussi est une entreprise qui amène beaucoup de personnes qui se retrouvent aussi dans mon histoire. Donc des gens qui sont fragilisés par la vie, fragilisés dans un état de santé particulier. Donc on a des personnes qui sont plus à fleur de peau, peut-être, qu'à la normale. Et ça, c'est une énorme responsabilité que moi, j'ai pas identifiée tout de suite. Et j'ai vu ça comme étant quelque chose qui permettrait de rassembler. Alors, c'est le cas, mais c'est aussi, du coup, beaucoup plus difficile dans le management. Et du coup, il est vrai que moi, l'entreprise, au début, et je te rejoins parce que j'ai cofondé ma société avec ma famille aussi, donc je te rejoins complètement, c'était famille, amis, et les gens qui rentraient, c'était presque une deuxième famille que j'étais en train de construire. Et quand l'entreprise a explosé, à la fois en termes de chiffre d'affaires, de tout... On s'est retrouvé à devoir monter à 20-30 en l'espace de quelques mois et c'était plus possible de gérer la société comme ça. Je suis quelqu'un d'assez, dans ma manière d'être dans l'entreprise, je suis assez rationnelle. Donc moi, dans mon esprit, ça a été simple. Ah oh bah c'est plus possible, bah c'est pas grave, on change. Et du coup, bah j'ai changé, mais sans accompagner. Et là, bah j'ai mis des gens sur le carreau, d'un point de vue émotionnel. Pour moi, c'est ma plus grosse connerie. J'ai mis des gens sur le carreau d'un point de vue émotionnel parce que je manageais plus de la même manière, parce qu'il n'y avait plus cet esprit aussi familial qu'au début et que personne ne comprenait pourquoi j'étais en fait, pour eux, en train de couper les ponts, quoi. Et ça a été extrêmement dur. Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Le mal avait été fait au niveau de ces colères à la Balorta et je pense, je le dis et je l'assume, je pense que ces gens-là m'en voudront pendant encore longtemps parce que ça a touché trop profondément émotionnellement en eux. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que j'étais pas super-héros, en fait. Et qu'il y a des trucs que je saurais jamais faire. Il y a des trucs aussi que j'aimerais pas faire. Et je le dis en toute humilité, j'aime pas ça, en plus, le management. J'ai compris que j'aimais pas ça. Et du coup, j'ai compris surtout que je devais me faire entourer. C'est à ce moment-là que j'ai pris un coach dirigeant parce que, honnêtement, émotionnellement, j'étais quand même très border. J'étais très, très mal émotionnellement de vivre ça. Je reste quand même un être humain. J'ai commencé à structurer une équipe pour avoir des managers qui aiment ça, premièrement, qui ne se font pas bouffer émotionnellement aussi par ce qu'ils vivent, hein, parce que c'est difficile de gérer les émotions des autres et surtout qui sont bons, quoi. Ma vision de mon boulot a vraiment changé à ce moment-là, en mode, mais en fait, je veux pas être Wonder Woman, moi, je veux pas tout faire dans ma boîte, ça m'intéresse pas, hop, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et c'est en faisant cette grosse bêtise de management que j'ai compris ça, en fait. Vraiment, que je me suis réveillée.
Un point commun également, votre lien fort avec vos clients patientes pour Marine, votre communauté impressionnante côté Pauline, 90 000 abonnés sur LinkedIn, 50 000 sur Instagram si je ne me trompe pas. Quelques mots sur justement pourquoi ce lien fort et ce que ça vous demande comme discipline. Parce que quand je vois Pauline que vous postez une ou deux vidéos par jour ou par semaine, plus des podcasts deux par semaine, ça demande une discipline de vie pour toutes les deux qui est extrêmement forte, qui s'apparente presque à celle d'un sportif de haut niveau. Comment vous faites pour entretenir cette communauté et gérer tout ça?
Je te laisse démarrer, là, c'est toi la papesse, là.
Écoute, non, pas du tout. Mais moi, c'est venu un peu par hasard. Hein. J'avais pas prévu d'être présente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pendant longtemps, j'y étais pas. Moi, j'ai lancé, je pense, mon compte Instagram il y a donc 2 ans et demi à peu près avec le gratin. Et LinkedIn, bah, j'étais dessus, mais je veux dire, comme nous tous, quoi. Je veux dire, je faisais rien dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est intéressant, c'est que quand le podcast a démarré, j'ai commencé à recevoir des messages. Mais je pense que toi, t'en reçois tout le temps. C'est un peu la même histoire. Des messages de détresse, des messages de personnes qui me disaient qu'elles étaient paumées, qu'elles ne savaient pas quoi faire, des étudiants, des jeunes qui ne savaient pas quoi faire comme études, qui se reconnaissaient du coup dans mon parcours, pas forcément parce qu'ils avaient fait toutes ces études, mais parce qu'ils se disaient « mais moi aussi j'ai 25 ans et je suis paumée », des personnes beaucoup plus âgées en reconversion, des managers qui ne savaient pas manager, enfin plein de gens en fait qui souffraient d'une situation professionnelle inconfortable, beaucoup d'entrepreneurs évidemment, et du coup ces messages-là, ça m'a donné envie de faire plus, quoi pour eux, parce que je me suis rendu compte que si ça les aidait, et moi-même j'avais bénéficié de ça en fait, c'est la même histoire avec le podcast, c'est ça qui m'avait sorti de mon espèce de petite dépression, bah, finalement, je me suis dit, il faut que je fasse plus, quoi. Et donc, je me suis organisée en construisant une équipe, parce que le gratin, aujourd'hui, c'est 4 personnes. Donc, moi, je dis ce que j'ai à dire, mais j'ai des personnes qui m'organisent mes rendez-vous, j'ai des personnes qui font mes vidéos, j'ai des personnes qui font mon montage. Enfin, voilà, c'est une équipe, en fait, maintenant. Et donc, quand vous dites que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu tous les jours, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si je suis honnête avec vous, c'est moi qui décide, de, entre guillemets, de ce que je vais dire, parce que c'est toujours ma parole. Mais par contre, il y a un planning éditorial qui est décidé et validé en amont avec mon équipe, en fonction justement de tous les messages entrant de ma communauté. Et donc, en fait, il y a vraiment un énorme travail qui est fait par beaucoup d'autres personnes que moi. Et la raison pour laquelle j'y arrive aujourd'hui, c'est justement parce qu'avec mes 10 ans d'expérience chez Gémio, maintenant, construire des équipes, je sais le faire. Et donc bah, c'est un outil que j'utilise pour essayer d'avoir un maximum d'impact. Parce que ce qui compte pour moi avec le gratin, c'est pas juste d'avoir une communauté, je m'en fous en fait d'avoir une communauté. C'est si je peux à un moment donné, et je pense que Marine, enfin, pour elle, c'est encore puissance 1000, évidemment, je peux pas dire une seconde que moi c'était le même niveau, mais avoir un impact que j'appelle horizontal et vertical, c'est-à-dire sur beaucoup de monde, ça c'est l'horizontalité, et vertical, c'est-à-dire en profondeur, quand quelqu'un m'envoie un message pour me dire j'ai changé de job à cause de toi, j'ai décidé d'entreprendre, j'ai quitté mon mec, j'ai, peu importe, mais j'ai pris une décision et j'ai agi. Et moi, honnêtement, c'est ça qui fait que je me dis, je veux faire encore beaucoup plus de contenu. Je veux faire plus parce que si ça peut aider des gens à se bouger, à prendre conscience d'eux-mêmes, mais en fait, c'est gagné, c'est jackpot pour moi.
Et ça demande une discipline forte, hein, ça demande beaucoup d'énergie.
Une organisation. Mais de l'énergie, j'en ai pas mal.
Je vois. Marine ?
Je suis à l'étape d'il y a 2 ans pour toi. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis... Depuis à peu près 1 an, je suis sursollicitée, que ce soit par des patients, que ce soit par des professionnels de santé. Un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire avec des patients qui expriment « je ne sais pas quoi faire avec mes souffrances, comment t'as fait, comment voilà ». Qui en plus, vu que j'ai une maladie rare, j'ai beaucoup de personnes de cette maladie qui ne savent pas trop comment s'orienter. Je suis atteinte aussi d'une endométriose, donc autant te dire que ça ouvre aussi voilà, beaucoup la parole aux femmes sur les douleurs féminines intimes. Et en fait, je me retrouve avec des patients, des professionnels de santé, des politiques aussi, des entrepreneurs aussi féminines dans le secteur qui est le mien, la pharma, qui est très difficile pour une femme. Et en fait, je suis dans la situation, toi, il y a 2 ans, de « mince, j'ai plein de gens qui sont en train de me contacter ». Et j'ai pas encore la discipline pour répondre. Je suis dans cette étape-là aujourd'hui.
Mais il faut pas que t'aies la discipline. Je pense qu'il faut que tu saches dire non. Enfin, moi, vraiment, s'il y a un... Enfin, je me permettrai pas de te donner des conseils, mais si j'ai appris quelque chose pour moi, c'est qu'en fait, je suis obligée d'énormément prioriser, mais vraiment énormément. Donc, j'apprends à dire non à, sincèrement, 90% des sollicitations. Et je réponds à celles qui sont les plus impactantes, en fait, mais, tout simplement.
Là, on est en train de structurer un petit peu actuellement, de structurer tous les types de demandes qu'on a. On s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, sur les demandes patients, beaucoup de demandes identiques. Donc, on fait un peu le travail que tu as fait d'identifier, en fait, de pouvoir répondre à ces patients. On n'a pas encore choisi notre format. On se passera vidéo, podcast, fondation d'entreprise. C'est en train là, d'être pleinement réfléchi pour justement pouvoir encore plus accompagner tous ces gens qui me contactent, apprendre à dire non. Quand soit j'ai l'entreprise ou moi, on n'a vraiment pas de plus-value. Mais on est vraiment dans la phase de construction. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis il n'y a pas très très longtemps sur les réseaux, notamment Instagram. Parce qu'en fait, notamment sur le syndrome de l'air dans l'os et l'endométriose, les femmes les plus touchées sont les femmes en fait assez jeunes, entre 15 et 25 ans. Et c'est elles qui me contactent le plus, c'est LinkedIn et Twitter.
Ouais, elles s'en foutent.
Elles sont clairement pas dessus. Donc, du coup, voilà, je suis à l'étape de réflexion et je prends ton conseil de ne pas répondre à tout le monde et de ne pas dire oui, parce que je suis un peu une première de la classe, donc j'ai un peu envie d'aider tout le monde et au détriment de moi, donc je prends ton conseil.
Ça aussi, c'est très classique, je pense. Le temps file. Un mot chacune sur vos expériences de levée de fonds qui ont été très différentes.
Marine, comment
ça 5,5 millions, la plus grosse levée de fonds au niveau mondial.
Difficile.
Très long.
Long, difficile.
Plongé dans un monde inconnu.
Ouais, plongée dans un monde inconnu. En plus, je me suis mis des niveaux de difficulté supérieurs parce que je suis partie sur un montant, le plus gros montant de levée de fonds en seed, même en comparaison à ce qui peut se passer en Asie ou aux États-Unis. Je me suis mis en difficulté que ça soit que des fonds français pour démarrer. Je me suis mis en difficulté que j'ai autant de femmes investisseurs que d'hommes investisseurs. Donc, je me suis mis beaucoup de difficultés au démarrage, mais parce que c'était ce que je voulais que ma boîte représente en termes de valeur. Dans l'entrepreneuriat, il était hors de question que ma boîte finisse achetée par un groupe pharma. En tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Donc, il devait, dès le départ, en fait, cette levée de fonds, elle devait envoyer un message. Elle devait envoyer un message de « je suis pas la petite start-up française qui va rester chez elle ». Ça, c'est la première chose. Je suis une entreprise industrielle innovante pharmaceutique qui va arriver sur les marchés internationaux. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'était, avec cette levée de fonds, diversité, inclusion, place des femmes. Donc ça, c'était pour moi aussi quelque chose de très fort que je voulais positionner. Et la deuxième chose, c'est, là, c'est un peu chauvin, c'est la France m'a formée dans mes études. Je suis une étudiante du CROUS. J'ai eu des fonds d'amorçage pour démarrer. La pharma, ça coûte horriblement cher. Et la France a été là. Indépendamment des couleurs politiques, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que mon pays a été là pour me permettre d'être là aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Et je peux pas aller lever des fonds aux États-Unis alors que ça commence à marcher. C'est pas possible, ça. Et donc, difficile.
Voilà. Donc un d'autant plus gros bravo, surtout que vous avez commencé au tout démarrage avec des campagnes de crowdfunding qui n'ont pas marché, des galas de charité. Enfin, vous avez vraiment essayé tout avant d'arriver à la levée de fonds. Et vous, Pauline ?
Alors nous, chemin particulier, et déjà je voulais donner toute mon admiration à Marine parce que franchement, déjà, c'est pas, je pourrais dire projet parce que c'est dévalorisant, mais l'entreprise, le projet d'entreprise, la mission mérite évidemment qu'on y passe du temps et qu'on y investisse. Je tiens juste à dire qu'en fait, les levées de fonds, c'est pas une fin en soi, et je pense que Marine, elle a pas, entre guillemets, le choix. Parce que quand on est dans la pharma...
C'est ça.
Ça coûte très cher, c'est comme ça, c'est de la recherche fondamentale. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est que toutes les personnes qui nous écoutent se disent que là, bah, Marine, c'est un cas particulier et qu'en fait, ce n'est pas le cas de toutes les startups françaises ou de toutes les entreprises françaises. Nous, avec Gémio, on a commis des erreurs, comme d'habitude, et notamment, enfin, je ne le regrette pas une fois de plus parce que j'ai appris, on a levé des fonds, on a levé autour de 4 millions et demi à peu près, avec des fonds d'investissement et ça se passait pas mal. Mais en fait, on a une marque de joaillerie, on n'est pas une startup. C'est pas la même chose. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté notre fonds. Et donc, aujourd'hui, on est majoritaire au capital et j'en suis très fière. Et on est une boîte rentable. Et on a fait ce choix-là, qui était d'ailleurs un peu incompatible avec, sincèrement, la vision de nos fonds, hein, parce qu'eux, ils ne cherchent pas la rentabilité, hein, faut dire la vérité. C'est très bien pour certaines entreprises, mais pas pour une marque de joaillerie.
Alors, franchement, je suis obligée de rebondir, je suis désolée. Franchement, bravo. Bravo. Même dans la pharma. On peut faire autrement. Et l'entreprise, logiquement, dans une pharma, dès la première année, tu lèves des fonds. Nous, on s'est démerdé à faire du chiffre d'affaires. On a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avant de lever des fonds. La levée de fonds, je te rejoins, est un moyen. Et bravo, bravo vraiment pour ça.
Bah, le jour où tu signes le chèque, t'es pas hyper, tu te dis, bon,
il va falloir rembourser maintenant. Bravo et tu as raison de dire aux jeunes entreprises, et je te rejoins, même dans la pharma, ne démarrez pas par lever des fonds. Sinon, vous êtes moi, je suis encore majoritaire à mon capital, malgré le montant. Parce que j'ai commencé par du chiffre d'affaires.
Non, mais c'est comme un sportif, tu vois, qui commence déjà shooter dopé.
C'est ça.
Est-ce qu'il va être vraiment bon ou pas ? On ne sait pas.
C'est ça, je suis complètement alignée.
Et je termine par un dernier chiffre qu'on vient d'apprendre. 4% d'entreprises portées par des femmes uniquement dans les startups aujourd'hui en France. 96% avec des équipes masculines. Donc bravo à vous deux. Et il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Un portrait chinois, le conseil que vous donneriez à vous-même si vous étiez en face de vous à l'âge de 20 ans. Marine.
Alors, c'est un conseil qui va vous paraître très bizarre. Change de paradigme. Ce que tu penses au fond de toi, c'est que l'humain est bon par nature. L'humain n'est malheureusement pas bon par nature, c'est la société qui le rend bon. C'est ça que je me dirais il y a 20 ans, à l'âge de mes 20 ans.
Pauline ?
Je pense que je me dirais, ça va aller, premièrement, parce qu'à 20 ans, j'avais pas mal de problèmes dans la tête. Et au final, ça va quand même pas si mal maintenant. Et puis, je pense que je me dirais aussi, arrête d'essayer de faire plaisir. Arrête d'essayer de faire plaisir aux autres et essaye de comprendre ce que tu veux, toi.
Ce qui vous ressource ?
La pomme de terre et le Mont d'Or.
C'est pas mal.
On m'a jamais fait ça.
Écoute, le chocolat, c'est vrai que ça marche aussi. Non, moi, classiquement, le sport, moi, me ressource énormément. Je fais beaucoup de sport parce qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir en faire et j'adore ça parce que ça me vide complètement.
Quel sport ?
Course à pied, je veux dire, un peu sauter dans tous les sens et faire des exercices, quoi, mais juste dépenser un maximum d'énergie pour me recadrer un petit peu.
Un livre ?
Négociator, de Merwan Mehri, du groupe ADN Group, sur apprendre en fait que ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est toujours des points de vue différents, et donc ça s'appelle de la négociation, et c'est ça qui permet d'acheter la paix quand on sait se parler.
Hyper bien, je le connais pas, tu vois, ça, tu me donnes envie de lire. Un petit livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ibrahim et les fleurs du Coran. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric Emmanuel Schmitt. C'est une nouvelle, c'est tout petit, c'est d'une poésie folle. Et je rejoins pas mal Marine, parce qu'en fait, ça nous montre que finalement, parfois, on a des idées arrêtées, des idées reçues sur beaucoup de choses, et que finalement, la vie est assez différente de ce qu'on peut croire.
De quoi n'avez-vous plus peur ?
De moi.
Moi, je pense que j'ai plus trop peur de me tromper.
Et ce qui vous fait le plus aimer la vie, plus que tout aimer la vie, aujourd'hui ?
Moi, c'est assez simple, c'est que j'ai la chance d'être mariée avec l'homme de ma vie et de travailler avec.
Je vais te plagier, je suis désolée.
Vas-y, vas-y. Bah, tant mieux.
Je sais pas si on a le droit, mais tant pis, on y va. J'allais dire la même chose, le regard de l'homme que j'aime. Voilà, j'ai une image dans la tête, mais le regard de l'homme que j'aime.
Donc on a bien fait de vous rassembler avec l'équipe des Échos parce que vous avez pas mal de points communs. Merci Pauline Léniaud, merci Marine Cotier-Sloos, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Jules Croc, nomade aujourd'hui puisque le podcast, je l'ai dit, est enregistré chez vous Pauline. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.